Vous écoutez
RMC. Face à face.
Philippe Corbet.
Il est 8h33 sur BFM TV et RMC. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Vous avez dénoncé, je cite votre tweet, le racisme du député RN Grégoire de Fournas qui a crié dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique alors que son collègue insoumis Carlos Mertens Bilango posait une question sur le bateau de SOS Méditerranée qui vient en aide à des migrants. Est-ce que vous demandez, vous, la démission de ce député Rassemblement National ?
Bon, d'abord, je veux dire que comme énormément de Français, on est tous extrêmement choqués de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, qui est le lieu de la démocratie, qui est bien sûr le lieu des combats politiques. Il ne s'agit pas d'être en sucre et de ne pas accepter des arguments forts, parfois difficiles. Mais moi, ça fait 15 ans que, d'une manière ou d'une autre, je suis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est la première fois que j'ai entendu quelque chose aussi ignominieux. Donc il ne faut pas considérer que c'est un détail, pour reprendre un mot du Front National, un détail de notre histoire politique
et parlementaire. Est-ce qu'il doit démissionner ? Je dis ça parce que votre parti Renaissance lance une pétition en ligne pour appeler à la démission de ce député.
Moi, je signerai cette pétition. Je pense que cet après-midi, le bureau de l'Assemblée nationale, je ne suis pas membre du Parlement tant que je suis ministre, mais j'espère, prendra la décision la plus forte pour sanctionner ce député du Rassemblement national.
C'est une suspension pour 15 jours, c'est le règlement de l'Assemblée nationale.
Parce que l'Assemblée nationale ne peut pas juger de la présence ou non des députés dans l'hémicycle, c'est seuls les électeurs peuvent le faire, il n'y a aucun doute. Je pense que la question de sa démission se pose pour lui, en conscience. Et je pense que la position, et c'est sans doute la chose la plus intéressante dans cette histoire terrible, c'est la position de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui pendant des semaines, des mois, des années nous ont expliqué que le Front National ne ressemblait pas au Rassemblement National, qui n'avait rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, avec les anciens de l'OAS, avec les anciens de Vichy, avec les propos racistes que nous avons connus quand nous étions plus jeunes, quand j'étais plus jeune. Madame Le Pen, elle soutient finalement ce député. Elle n'a pas fait un pas de côté. Je dirais même que les propos entendus depuis hier soir légitiment la parole de ce député. Et donc, ce qui est encore plus inquiétant que les propos de ce député qui doit se retourner vers sa conscience, c'est la position de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Ils sont finalement complices de ce racisme ordinaire.
Parce que, pour préciser, ce député RN lui dit qu'il ne parlait pas de ce député insoumis, mais du bateau et des migrants qui s'y trouvent. Est-ce que dire qu'il retourne en Afrique en parlant du bateau et des migrants qui sont à bord de ce bateau, c'est aussi un propos raciste ?
Mais dans ce bateau, au moment où nous parlons, il y a plus de 230 femmes, enfants, vieillards qui ont survécu à des naufrages en Méditerranée. Je rappelle qu'il y a eu des milliers de morts en Méditerranée depuis 5 ou 6
ans. Plusieurs dizaines de milliers. Ouais.
Et on peut vouloir maîtriser l'immigration sur le sol national, je suis de cela, et être humain en même temps. Bien évidemment que ces femmes et ces enfants doivent trouver le port le plus sûr. Et aujourd'hui, ce bateau, il est au large de la Sicile. D'ailleurs. Et donc, c'est le droit international par ailleurs. Il doit pouvoir accoster dans un port italien. Et d'ailleurs, nous avons dit à nos amis italiens que si ils acceptaient évidemment le droit international, ce dont nous ne doutons pas, nous prendrions notre part, évidemment, ce qu'on appelle des relocalisations, c'est-à-dire des accueils de ces femmes et de ces enfants, de ces vieillards.
Parce que c'était la question que posait ce député insoumis, qui disait, au fond, l'Italie, parce qu'il y a un nouveau gouvernement en Italie, un gouvernement d'extrême droite, refuse l'accès de ses ports à des bateaux avec des migrants, et donc interpellait le gouvernement français, mais je crois qu'SOS Méditerranée interpelle aussi la Grèce, l'Espagne, la France, pour que la France accueille ce bateau. Est-ce que nous pourrions accueillir ce bateau si l'Italie le refusait ?
Mais la question du député était légitime. Bon, on n'a pas pu avoir la réponse du gouvernement puisqu'il y a eu ces propos racistes dans l'Assemblée nationale. Et qu'il retourne avec un singulier pour ce député qui est légitimement blessé profondément, ou qu'il retourne avec un S parlant des femmes et des enfants sur ce bateau qui ont connu des naufrages en pleine Méditerranée. Il faut que les pères et les mères de famille nous écoutent et ils voient leurs enfants qui...
Ce sont des migrants qui ont été secourus en mer parce qu'ils étaient...
Arrêtons-nous quelques instants. Les pères et les familles qui nous écoutent aujourd'hui, et mères de famille, ils ont leurs petits enfants peut-être au petit déjeuner, les amènent à l'école. Ils imaginent que leurs enfants ont été secourus en Méditerranée. Ils sont sur un bateau, apeurés et sans doute en partie morts de froid. Et il faudrait donc, l'humanité devrait nous pousser à dire à ces enfants, si c'était les nôtres, qu'ils fassent le chemin en arrière, sachant qu'en plus ces conditions météo sont extrêmement difficiles en ce moment. Évidemment, c'est inhumain. Et évidemment que c'est raciste.
Sur la question de ce bateau,
juste pour la question de ce bateau, je veux dire que même l'argument que donne le RN en disant il parlait du bateau, ça aussi c'est raciste. Non, c'est pour préciser ça.
Il n'y a aucun doute. D'accord. Ou alors c'est profondément inhumain.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il distingue les personnes qui méritent un secours et ceux qui ne méritent pas.
Mais est-ce que la France pourrait accueillir ce bateau si l'Italie refusait d'accueillir?
Je vais répondre à cette question dans quelques instants. Mais d'ailleurs, le Rassemblement national n'en est pas à son premier propos raciste ou profondément inhumain. Il y a quelques jours, une députée a dit, députée du Rassemblement national, que les sauveteurs en mer, on connaît tous les sauveteurs en mer, vous savez, c'est ces personnes qui bénévolement vont sauver les personnes en mer, ne devraient pas intervenir pour sauver des réfugiés lorsqu'ils considéraient que ce n'étaient pas des personnes qui étaient réguliers sur le territoire national ou français. Donc il y a évidemment un faisceau d'indices qui démontre que le Rassemblement national et dans la même veine que Jean-Marie Le Pen.
On va revenir sur le bateau. Est-ce que la France pourrait l'accueillir si l'Italie refuse?
Le droit international est très clair. Quand un bateau demande à accoster lorsqu'il y a des naufragés à bord, c'est le port le plus sûr, le plus proche qui doit l'accueillir.
Et donc là, la Sicile, l'Italie.
En l'occurrence, l'Italie. Donc nous ne doutons pas un seul instant que l'Italie, qui est dans l'Union européenne, qui a signé toutes les conventions internationales, comme à son habitude, et l'Italie fait une grande part d'humanité, accueille ce bateau. Nous disons à nos amis...
Vous savez qu'il y a quelques années, quand Salvini, qui était ministre de l'Intérieur, avait engagé un bras de fer, refusait d'accueillir les bateaux, et à cette époque-là, il y avait eu un bras de fer engagé par la France, d'ailleurs, par Emmanuel Macron.
Nous ne doutons pas. J'ai rencontré le ministre de l'Intérieur italien, le nouveau. Je dis, ne doutons pas que l'Italie va respecter le droit international. Mais nous disons aussi à l'Italie que le problème de sa géographie, d'être la plus proche de ce bateau, ne doit pas la laisser seule. Et nous avons dit à l'Italie, et nous disons avec l'Allemagne à l'Italie, c'est ce que nous demandons également à nos amis allemands, que si ce bateau est accueilli en Italie,
nous accueillerons une
partie des migrants, des femmes et des enfants, pour que l'Italie n'ait pas le seul fardeau, bien évidemment, de cette arrivée de migrants.
Gérald Darmanin, je voudrais revenir sur ce que vous disiez il y a une minute en parlant du RN en général et de, au-delà de ce député, de l'esprit du RN. Est-ce que selon vous, le RN est un parti foncièrement, fondamentalement raciste? Ou est-ce qu'au fond, ça, c'était le Front National autrefois et aujourd'hui, ce parti est peut-être différent?
À coup sûr, il n'a pas apporté la preuve du contraire. Et il y a parmi les membres du Rassemblement National quelques récidivistes de ce point de vue, il n'y a aucun doute. Donc la démonstration que c'est un parti comme les autres n'est absolument pas faite. Voilà, dans son comportement et dans ses propos. Moi, je pense que Mme Le Pen fait une grave erreur, une très grave erreur de point de vue de son propre comportement, démontrant qu'ainsi elle n'est pas capable de diriger notre pays aux plus hautes fonctions, en ne se séparant pas de certaines personnes qui, manifestement, tiennent des propos inhumains et racistes. Je terminerai par dire que la France insoumise, et ça ne retire rien au soutien que j'ai pour monsieur le député qui a été blessé, devrait quand même aussi tirer un certain nombre de conclusions de tout ça. On ne peut pas à la fois, comme monsieur Mélenchon...
C'est pas le sujet. C'est un peu hors sujet, ça.
On ne peut pas à la fois, comme monsieur Mélenchon... se satisfaire que le Rassemblement national ait voté les motions de censure urbi et turbi comme il l'a fait. On ne peut pas à la fois se dire
«
mettons-nous d'accord pour faire tomber le gouvernement et mélangeons toutes les voix puisque tout est bon finalement pour y arriver » et ensuite faire des manifestations pour expliquer que le Rassemblement national est absolument inacceptable. Je pose la question de cet après-midi, il y a une motion de censure. Est-ce que la France insoumise considère qu'elle doit toujours accueillir les voix du Front national?
Vous demandez la France insoumise de retirer sa motion de censure?
D'abord, est-ce qu'elle peut dire oralement, comme certains présidents de région, rappelez-vous de l'époque, moi j'étais dans un parti gaulliste, disaient nous ne voulons pas des voix du Front national. Et est-ce que deuxièmement, devant l'incroyable de cette situation, l'horrible de cette situation, est-ce qu'ils ne pourraient pas retirer leur motion de censure par dignité pour éviter que justement le Rassemblement national, qui a déjà annoncé hier soir qu'il voterait leur motion de censure, ils n'ont rien à voir avec ces gens-là, que les filles fassent aussi la démonstration.
Germain, deux petites précisions sur ce que vous venez de dire. D'une part, sur l'Italie, Giorgia Meloni a été très claire, elle n'accueillera pas de bateau. Donc on sait bien qu'ils ne vont pas accueillir.
Mais nous verrons bien.
Non mais d'accord, mais
il a été très clair. Moi j'ai eu un échange.
Vous pensez que le ministre intérieur n'est pas d'accord avec la présidente du Conseil?
Moi je vais vous dire que à la fois le président de la République française a eu un échange avec la première ministre italienne, j'ai eu un échange avec mon homologue. Il y a aujourd'hui un bateau de naufragés, de femmes, d'enfants qui sont au large de l'Italie. Le droit international, c'est que le pays le plus sûr, c'est l'Italie pour les accueillir. Il se trouve que nous avons dit à nos amis italiens, avec nos amis allemands, que nous sommes prêts à prendre, bien évidemment, comme nous l'avons fait dans les cas précédents, une partie des femmes et des enfants pour que l'Italie n'ait pas seule les réfugiés. Il n'y a aucun doute que l'Italie ne se mettra pas en infraction avec le droit international.
Dernière précision sur ce point, puisque on parlait du RN. Ce député insoumis, Carlos Martins Bilongo, il sera à 9h sur BFM TV. Il était ce matin sur RMC et il a souhaité vous poser une question. Et pour qu'on comprenne la question qu'il vous pose, il fait référence à un débat en 2021 que vous avez eu avec Marine Le Pen. C'était un débat sur l'islam radical et vous aviez dit qu'elle était molle, qu'elle était dans la mollesse. Voici ce que disait ce matin ce député insoumis. Il vous interpellait. On l'écoute.
Ce que j'aimerais dire à Gérald Darmanin, donc j'ai vu son tweet et je l'en remercie.
Il vous a apporté son soutien, évidemment.
C'est ça. Mais je trouve que c'est un peu tard comme soutien, parce que Gérald Darmanin, c'est lui en tant que ministre qui a trouvé Marine Le Pen un peu molle. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui il la trouve à son goût.
Moi, toute ma vie, j'ai combattu le Front National. Je me bats dans ma terre de Tourcoing, dans le Nord, pour lutter contre le Front National. J'ai soutenu Xavier Bertrand pour qu'il batte Marine Le Pen. J'ai toujours battu les candidats du Front National, où le Front National est très haut chez moi. Et mes deux grands-pères sont immigrés de l'autre côté de la Méditerranée.
Mais vous ne regrettez pas de l'avoir traité de molle? Non, parce que maintenant vous dites qu'elle est son parti fondamentalement raciste.
Madame Le Pen était dans une stratégie de dédiabolisation, ce qu'elle essaye toujours d'être, chacun le constate. Elle s'est fait d'ailleurs doubler par sa droite identitaire par M. Zemmour à l'époque, tout le monde l'a constaté également. Et elle a essayé de se parer, ou elle essaye de se parer des habits d'une forme de mollesse par rapport à son père, ou par rapport aux responsables du Front National ancien, et on voit que le naturel revient au galop. D'ailleurs, dans ce débat qui a duré plus de deux heures contre Madame Le Pen, j'ai essayé justement de démontrer qu'elle était extrêmement contradictoire. Aujourd'hui, Madame Le Pen, elle ne fait pas la démonstration, elle n'arrête pas de le dire, mais elle ne fait pas la démonstration qu'elle est un parti comme les autres, qu'elle est une dirigeante comme les autres.
Elle a recueilli 13 millions de voix, il y a 89 députés RN.
Mais moi, je respecte les électeurs du Front National, bien évidemment. Et les députés du Front National sont légitimes à siéger à l'Assemblée. C'est pas moi qui...
Elle peut être élue dans 89.
C'est pour ça que je me bats en politique. C'est pour éviter que, notamment, que Mme Le Pen soit présidente de la République. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut mettre des mots sur les choses. C'est pour ça que je dis aussi aux députés LFI que dire que la police tue, ça ne fait que renforcer le Front National. On pourrait avoir ce débat pendant très longtemps. Ça ne retire en rien l'ignominie d'une insulte raciste. Et je veux dire aujourd'hui que nous constatons, je crois, devant la face du débat politique, que Mme Le Pen ne s'étend pas et ne s'entend toujours pas séparée de ce député. Elle est une forme de complice.
Je rappelle qu'au début de cet entretien, vous avez dit que vous signeriez cette pétition déposée par Renaissance pour appeler à la démission de ce député. Alors, il se trouve que cet incident de séance arrive dans un contexte particulier. Vous avez présenté il y a deux jours les grandes lignes d'un projet de loi immigration qui sera discuté au début de l'année et qui va être un moment important. Et il y a beaucoup de choses. Il y a un aspect répression, il y a un aspect intégration. Et la mesure qui a surpris, puisqu'on ne l'attendait pas, c'est notamment la création d'un titre de séjour pour des étrangers qui occupent déjà des postes dans des secteurs qui ont du mal à recruter, par exemple le bâtiment. Et on a eu l'impression que vous avez très vite essayé de limiter, minimiser cette mesure-là en disant « Attendez, ça sera que pour un an, ça sera que quelques milliers de postes ». Si vraiment vous voulez mettre fin à une hypocrisie qui au fond, dans plein de restaurants en France, il y a des sans-papiers. Pourquoi ?
Et pas que des restaurants.
Et pas que des restaurants, des chantiers, etc. Pourquoi ne pas, d'une certaine manière, accorder ce titre de séjour à davantage de sans-papiers? Parce qu'au fond, c'est peut-être en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers, qu'on compte ces sans-papiers qui travaillent.
Bon, ce n'est pas...
Connaissez le nombre de sans-papiers qui travaillent, vous?
Ce n'est pas en centaines de milliers.
C'est combien? C'est en dizaines de milliers?
Aujourd'hui, la régularisation que le ministère de l'Intérieur fait au nom de la circulaire Valls, c'est-à-dire des gens qui sont sans-papiers, qui travaillent et qui ont les critères pour être régularisés, c'est 7000 par an.
Oui, mais 7000, c'est pas à la hauteur du nombre de sans-papiers qui travaillent dans des chantiers ou des restaurants.
Alors, il y a plusieurs types de personnes qui travaillent sans-papiers. Il y a ceux qui travaillent au black, comme on dit, c'est-à-dire qui sont payés de la main à la main. Ces gens-là ne sont pas concernés.
Ils ne sont pas concernés.
Il y a ceux qui sont embauchés parce qu'ils ont créé une auto-entreprise et que nous ne vérifions pas l'identité des personnes qui créent des auto-entreprises. C'est un des problèmes d'ailleurs de notre droit. C'est d'ailleurs ce que nous allons changer dans la loi, et qui ensuite viennent livrer vos repas dans les grandes métropoles.
Et Uber Eats, etc.
Vous citez plusieurs marques, c'est une chose, et qu'effectivement cela peut faire partie lorsqu'ils ont travaillé et lorsqu'ils n'ont aucun casier judiciaire et lorsqu'ils ont une volonté d'intégration de ce titre de séjour. Et il y a ceux qui travaillent au nom d'alias, c'est-à-dire qu'ils trichent sur leur identité, soit parce qu'ils ont des faussaires qui leur ont fait des pièces d'identité, soit parce qu'ils ont pris la pièce d'identité de leur cousin, de leur ami, soit parce que l'employeur a fermé les yeux sur cette fausse identité.
Mais comment vous allez fixer le nombre de titres de séjour?
D'abord, l'important, c'est quand même le principe. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Nous sommes tous confrontés à des travailleurs illégaux, des travailleurs de l'ombre, qui respectent la République, qui essayent d'élever leurs enfants tant bien que mal, et qui pourtant, tout en payant des impôts et tout en payant des cotisations sociales, n'ont aucune protection sociale et ne sont pas reconnus comme réguliers sur le territoire national. C'est en effet une profonde hypocrisie. Donc nous voulons mettre fin à cette hypocrisie. Mettre fin à cette hypocrisie ne veut pas dire faire un appel d'air pour que tout le monde puisse venir travailler illégalement dans des entreprises pour enfin être régularisé.
C'est ce que vous dites, les Républicains, ça va créer un appel d'air.
Non, mais il faut entendre ce que disent aussi les Républicains, il n'y a aucun doute. Il y a à la fois mettre fin à l'hypocrisie sans créer d'appel d'air. Mettre fin à une situation que nous avons nous-mêmes créée en partie sans en créer d'autres. C'est ça la politique, c'est toujours difficile et c'est toujours un point d'équilibre. Moi, ce que je veux dire, c'est que le principe de ce projet de loi, c'est que tous les hommes et les femmes qui aiment la France, qui respectent la République, qui respectent nos règles, qui travaillent, qui élèvent leurs enfants dans l'amour de notre drapeau et de notre terre, sont les bienvenus et doivent être en effet accueillis par la France. Tous ceux qui ne respectent pas la République, qui crachent sur notre drapeau, qui ont un casier judiciaire parce que c'est des criminels ou qui commettent des délits, doivent partir du territoire national.
Sur l'étude donc de ces gens, qui fixe cette liste-là ? Le ministère intérieur, est-ce que c'est une loi qui va fixer le nombre d'étrangers qui seront accueillis comme ça ?
Avouez que la proposition du gouvernement, elle est à la fois ferme et originale. C'est une bonne chose.
Mais on a l'impression que vous limitez la portée par crainte de votre propre audace.
Non, nous créons le débat. Mais c'est pas facile de créer un titre de séjour. Mais moi, je ne regarde pas ça en quelques secondes sur un coin de table en disant la politique migratoire de la France, elle se fait en quelques heures, tout seul ou à quelques-uns. Bien sûr qu'il y a un débat public et c'est pour ça que nous le faisons. Et d'ailleurs, on en parle ensemble. D'abord, nous allons faire des consultations politiques, syndicales, patronales, sociales avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, pendant un mois. À partir de la semaine prochaine, nous recevons toutes ces personnes. Ensuite, nous aurons deux débats, l'un à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat, pour écouter ce que disent des forces politiques. Et il y aura le projet de loi qui arrive à partir du mois de janvier au Sénat. Donc on a 4 mois de discussion pour voir comment et à partir de quand nous pouvons mettre en place ce genre de dispositif.
Et vous êtes prêt à le retirer si les Républicains disent « Pour nous, c'est vraiment... on ne votera pas le texte s'il y a ça dedans. »
Moi, j'entends ce que disent les Républicains. J'ai entendu aussi ce que disait un certain nombre de personnes comme Patrick Stefanini, qui était comme le monsieur immigration des LR, qui était le directeur de campagne de François Fillon, qui était le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Il a dit « C'est une très bonne idée, mais il faut peut-être mettre un plafond pour dire, voilà, pour pas qu'il y ait un appel d'air, justement, qu'on dise... Il faut se mettre d'accord justement avec le patronat, avec les syndicats, avec le Parlement. C'est quoi le nombre maximum de personnes que l'on souhaite régulariser dans ce cadre ? Et pourquoi pas ? C'est une proposition intéressante. Enfin, pour trouver une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, évidemment qu'il faut discuter, mais c'est le principe de ce qu'ont voulu les Français. Si les Français avaient voulu qu'on décide tout seul, M. Corbet, il nous aurait donné une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Oui, vous avez besoin des voix des Républicains pour faire passer ce texte.
Les Républicains sont évidemment extrêmement respectables, mais les socialistes aussi. Mais je discute avec un certain nombre de dirigeants communistes. La patronne l'ancienne patronne de la CGT en charge des personnes travailleurs sans papier, Madame Poulain, s'est félicitée très récemment sur France Info de cette proposition. Donc il faut discuter avec tout le monde. Nous discuterons avec tout le monde. Et je pense que l'important de ce texte, c'est que nous ayons une meilleure politique migratoire, aider ceux qui veulent s'intégrer à la République, exclure ceux qui veulent poser des actes criminels contre la République.
Gérald Darmanin, avant que cet entretien se termine, j'aurais quand même qu'on revienne sur un mot, puisque vous parliez des mots et de la nécessité de mettre des mots sur les choses, sur un mot qui a fait débat en début de semaine, que vous avez utilisé à propos de Sainte-Soline, le mot d'éco-terrorisme. Alors Sainte-Soline, c'était donc ces manifestations écolo contre des méga-bassines. Il y a une 60aine de gendarmes blessés, 22 sérieusement, une 50aine de manifestants blessés. Il y a eu des jets de boules de pétanque, des tirs de mortier contre les forces de l'ordre. Pourquoi vous avez parlé de terrorisme alors que, quand on regarde, le terrorisme, c'est une notion juridique très précise. Il y a un parquet national antiterroriste qui ne s'est pas saisi de cette affaire. Il n'y a pas de dimension de terreur ou d'intimidation de la population. Pourquoi vous utilisez un mot précis pour...
On n'a pas vu les mêmes images et
on n'a pas rencontré
les mêmes gens.
Vous auriez pu parler d'ultra-violence.
Non.
Vous auriez pu parler d'ultra-violence.
D'abord, le terrorisme, c'est aussi une notion en renseignement. Il se trouve que dans cette manifestation, je le dis peu, en général, lorsque j'ai commenté un certain nombre de choses, il y a eu 42 personnes fichées S, ultra-violence, ultra-gauche. Quand vous êtes fiché S...
C'est un élément de surveillance, c'est pas une liste de terroristes.
Quand vous êtes fiché S par la DGSI, je rappelle que c'est pas moi qui ai créé les fichiers S et c'est pas moi qui ai créé la DGSI, et c'est pas moi qui avais fiché, quand j'étais ministre de l'Intérieur, ces 42 personnes, c'était sous des gouvernements précédents et socialistes. Ce sont des personnes radicalisées, suivies pour radicalisation pour une partie d'entre eux.
Mais parce que terrorisme.
Suivies pour radicalisation. Qu'est-ce que vous en savez? Vous dirigez des services de renseignement.
Mais vous avez des informations.
Mais je l'ai dit.
Et constate juste que le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi.
Mais le parquet national antiterroriste ne se saisit pas et c'est lui qui le fait. Mais j'ai le droit de faire de la politique et dire des mots sur des choses. Et quand la violence est extrême, lorsqu'on attaque les gendarmes par centaines avec des pavés de 15 cm pour leur arracher la mâchoire, lorsqu'on les attaque au mortier, lorsqu'on les attaque au cocktail Molotov.
C'est l'ultra-violence.
Mais vous avez utilisé vos mots. Mais vous savez, les Français en ont marre qu'on dise pas les bons mots. Quand on dit sentiment d'insécurité quand il y a de l'insécurité.
Non, j'ai pas utilisé ce mot-là.
Moi, je vais vous dire. Non, mais il y a de la terreur dans ce comportement, sans aucun doute, contre les agriculteurs. Vous pensez que les agriculteurs, des Deux-Sèvres et d'ailleurs, ils ne sont pas terrorisés par des actes, effectivement, qui relèvent de la terreur?
Alors pourquoi c'est le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi?
Mais c'est le parquet national antiterroriste. Moi, je respecte l'autorité judiciaire et son indépendance. Permettez-moi de dire des mots sur des choses lorsque ces choses existent et qu'elles choquent tous les Français. Et je viens ce week-end, moi j'étais très fier des 1700 gendarmes qui ont été là et qui ont permis d'empêcher la ZAD de s'installer. Tout le monde a dit qu'une ZAD s'installerait, elle ne s'est pas installée. Tout le monde a dit qu'on lâcherait devant les agriculteurs qui voulaient le fruit de leur travail, on n'a pas lâché. Mais l'État a été ferme, contrairement à ce qui s'est passé jadis sur d'autres situations. Et on a été ferme parce qu'on a aussi su dire des mots sur les choses. Alors moi, effectivement, je viens d'un territoire, j'ai pas fait de grandes études peut-être, mais on dit des mots sur les choses. Et les mots sur les choses, c'est la première façon de pouvoir régler le problème. Si quand vous avez une difficulté, vous mettez pas des mots sur les choses, vous risquez pas de résoudre la difficulté. Aujourd'hui, il y a de l'écoterrorisme dans le monde occidental en général et en France, bien sûr.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, invité ce matin de BFM TV et RMC, il est 8h53. Bonne journée.